Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, témoignage très fort sur RMC, celui de Ruben, un enfant victime de harcèlement qui a été déscolarisé plusieurs fois à cause de ce qu'il subissait. Et il témoigne, Ruben, de son envie de retourner à l'école sans subir de violence.
De la colère ? Beaucoup de colère.
J'interpelle la maîtresse à plusieurs reprises. Un jour, il se fait taper dans les couloirs en descendant l'escalier. Elle me dit que tant que ça ne s'est pas passé, c'est pas grave. J'ai pas pu l'aider à ce moment-là, quand ça a commencé. Et à un moment donné, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai plus cru. Je me dis, peut-être que le problème, c'est moi. Peut-être qu'il met des choses en place pour ne pas aller à l'école. Mais c'est une culpabilité parce que... Puis, je ne sais pas, la sensation d'être bonne à rien, en fait.
J'aimerais bien aller à l'école comme tout le monde. Travailler, jouer avec des amis, tranquillement, quoi. Enfin...
Voilà, témoignage de Ruben et de sa maman ce matin sur RMC. Est-ce qu'il faut en faire plus, Benjamin Muller, sur le harcèlement scolaire ?
Il faut mettre le paquet, surtout que ça concerne, je crois, 1 million d'enfants chaque année qui sont victimes de harcèlement scolaire. Un enfant sur 10.
C'est énorme.
Donc 1 million, enfin vous imaginez, 1 million de victimes quand même d'un truc. Et moi, j'ai un peu l'impression que tout le monde dit c'est un sujet important, il y a une journée nationale, les ministres à chaque fois vont prendre la parole, etc. Mais que surtout, si ça tombe sur un de vos gosses, vous avez de la chance si vous avez un prof, un CPE ou un proviseur qui est sensibilisé au sujet, il y en a quand même plein, qui mettent le paquet, qui mettent en place des choses. Et en revanche, si le proviseur, il est un peu vieux de la vieille, qui prend pas ça au sérieux, etc., et ben, vous avez pas de chance. Et vous tombez un peu, c'est vachement dépendant de ça. Vous avez peut-être vu, là, à Marseille, il y a des bikers. Je sais plus quel est leur nom exactement.
Oui,
qui se déplacent
devant les écoles.
Ils sont formidables, ces gars. Et donc là, récemment, il y a eu ça il y a quelques jours. C'était une gamine qui se faisait harceler. Donc les bikers sont venus à 30 avec leur blouson noir, leur grosse Harley Davidson pour mettre un coup de pression au gamin qui les harcèle. Et la maman, elle disait, c'est super, etc. La maman, elle avait les pieds sur terre. Elle disait, mais moi, j'en ai parlé avant au prof, au CPO, au proviseur, au rectorat. J'ai envoyé des lettres au ministère de l'Éducation nationale.
Ce que tu décris est très pittoresque. C'est quoi? C'est de la justice privée, en fait.
C'est un peu
ça.
Tu peux téléphoner aussi à des cousins et puis le môme, il dit c'est eux là-bas.
Violence,
et puis ils prennent une grosse raclée et puis ils recommencent pas. Donc on est dans la justice privée qui est très à la mode et très tendance dans notre société aujourd'hui. Parce qu'on ne répond pas au phénomène violent dans notre pays.
En fait, on y répond
à tous les niveaux. Moi, ça fait un mois. Ici, on a eu.
Tu peux leur dire 10 fois, ils s'en foutent.
Ici, sur le dernier mois où je suis venu ici, on a eu le gars qui affiche les voleurs sur la vitrine.
Il n'y en a pas qu'un.
Le gars qui se fait squatter sa maison, qui ne sait pas vers qui se tourner, et à chaque fois, tu te dis. Bon moi je prendrais 3 gars que je paye et je fais sortir la personne direct,
le
squatter.
Le pédophile.
Le mec à Rouen qui a choqué le gars. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de cette histoire, c'est un petit peu curieux.
Qui a violé son gamin.
C'est en cours, l'enquête est en cours.
Voilà. Donc c'est quoi, c'est le Far West, comment ça se passe? Comment ça se passe?
Ton gamin, il se fait harceler. Il y a rien qui se passe. Qu'est-ce que tu fais?
Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je constate et je suis obligé d'accepter cette situation et après le problème. Le problème, c'est que quand tu dis, les 3 gamins qui ont harcelé, on va aller voir les parents, on va sanctionner les parents, on va faire en sorte que ce soit ces 3-là qui se fassent virer. C'est compliqué, comprenez. Le proviseur peut pas prendre cette décision-là, et donc c'est la victime qui morfle. Parce qu'en France, c'est toujours les victimes finalement qui finissent par morfler, parce qu'on fait rien pour condamner les autres, parce que on est toujours plutôt dans le laxisme.
Anne-Sophie, il faut être plus dur justement sur les harceleurs en milieu scolaire.
Alors, je ne sais pas s'il faut être plus dur, mais en tout cas, il faut des moyens. Et ça, c'est un enjeu permanent dans l'éducation nationale, à la fois en termes de formation, que les profs aient aussi la capacité de gérer ces cas-là.
Et des moyens pour faire quoi, excuse-moi? Des moyens pour faire quoi?
Déjà pour les identifier et puis pour après faire quelque chose.
Généralement, identifier, c'est pas. L'identification, c'est pas ça qui va être un problème. C'est pour embaucher Marie-Pierre, l'assistante sociale, qui va parler aux 3 gamins et qui dans la foulée. Et ils vont recommencer dans la foulée.
Oui, mais le problème, c'est que le gamin, tu sais très bien comment ça se passe. Je te parle des harceleurs.
Ouais.
Les harceleurs, le jour où tu les identifies et le jour où tu dis tu n'as plus ta place dans ce collège, tu vas ailleurs.
Ouais.
C'est un enfant. Ouais. Il faudra le scolariser ailleurs. Ouais. Et si cet enfant n'est pas traité de manière adéquate, c'est-à-dire ouais. avec des psychologues, j'en sais rien, ou avec un suivi.
Là, en l'occurrence, des psychologues pour trois petits cours.
Un suivi éducatif. Cet enfant va.
C'est juste que les parents doivent l'éduquer. Hein.
Mais tu repousses le problème ailleurs, c'est que ton enfant recommencera dans un autre collège.
Et puis, il y a aussi un autre truc,
pas,
c'est que.
Pas forcément.
Il faut, ah, oui, pas sorte, forcément. Il faut faire en sorte que les victimes, elles parlent. Et donc, effectivement, un psychologue scolaire, voilà. plus d'accompagnement. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, t'as des enfants qui sont terrorisés. Ils sont terrorisés, ils osent pas en parler au milieu scolaire.
Ils iront parler à la psychologue de l'école. Pensais,
oui. Vous savez qu'on
comme a... ça, il se fera harceler encore plus parce qu'il a été chouiné
non, non,
chez la
psychologue. Je suis désolée, non.
Permets-moi de douter beaucoup de ce genre de solutions-là.
Moi, vous j'ai vu dans un établissement.
Moi, je pense que, vu les établissements, moi, je pense que la manière forte, c'est ce qu'il y a encore qui est de meilleur.
Alors, vous savez qu'on est justement en train de changer de doctrine où la manière forte a longtemps été quand même la doctrine dans ce genre de situation.
Ah bon bien la sûr, manière forte bien sûr, en France à l'école, ça a été la doctrine.
Attends, je vais essayer d'aller au bout. C'est-à-dire que, en gros, tu virais quand ça allait vraiment trop loin, je te parle de violence extrême, tu virais, etc. Maintenant, il y a une autre doctrine qui est mise en place par une thérapeute qui s'appelle Emmanuelle Piquet, dont c'est la spécialité. Et en gros, elle prend les victimes et elle leur dit, voilà, quand ça t'arrive, il faut que t'apprennes à te défendre. En fait, la meilleure manière de lutter contre cette question, c'est d'apprendre aux victimes à se défendre. Par l'autodérision, par la blague, évidemment, pas par le coup, c'est pas la loi du talion du tout.
Ah, parce que ouais, ça va beaucoup marcher, ça.
Et je vais au bout. Daniel, ce que disent aussi les spécialistes de ces sujets, il y a quand même des gens qui y réfléchissent, c'est qu'on est tous, quand on est gamin, potentiellement harcelés, mais on est tous aussi, à un moment ou un autre de notre scolarité, potentiellement harcelés.
Moi, je doute des solutions qui sont proposées par tes experts.
Je suis sûr que si on
prend
votre
douter.
Scolarité et ma scolarité, à un moment ou un autre, j'ai dû emmerder des gamins. À l'époque, je me disais juste, je suis un petit con. Moi, en plus, je faisais du sport, j'étais à l'internat, on se chambrait tout le temps, il y avait cette logique. Si pour la plus tard, et la plupart vivaient bien quand je les chambrais, sans doute qu'il y en a certains qui se sont dit à un moment ou un autre, lui, il m'a harcelé. Et j'avais pas besoin qu'on me foute à la porte, etc. Mais si j'avais pu discuter avec un psychologue, peut-être qu'il aurait pu me dire.
Comment tu serais allé voir le psychologue?
Après, c'était pas à moi, gamin,
si
de l'organiser.
Toi, t'es le harceleur, comment ça va se passer?
C'était pas à moi de l'organiser.
Pas le harceleur.
C'est-à-dire, une fois qu'on t'a identifié, on t'envoie dans le bureau pour qu'on
pour en tout cas, que ce soit mis en place quelque chose pour que je me dise, merde, je suis con sur ce coup-là, il faut que j'évolue. Je veux dire, tout le monde n'est pas dans l'ultra-violence dans ces questions de harcèlement.
Parfois, tu te rends même pas compte que tu harcèles quelqu'un. Je voulais terminer, Anne-Sophie, parce que vous avez eu le temps de dire trois mots et puis c'est
non,
tout.
Mais moi, je vais complètement rejoindre ce qui a été dit. C'est qu'effectivement, entrer dans un espèce de cycle de violence où on va mettre à l'écart un gamin, ne pas résoudre le problème, ça sert à rien. Que par contre, il y a effectivement une question de compétences sur des psychologues, de gestion des relations entre les gamins, et que l'éducation nationale en souffre beaucoup. Moi, je le dis à peu près à chaque fois que je viens ici, mais le manque de moyens, d'AESH, d'accompagnants, de temps, les CPE qui n'en peuvent plus de gérer plein d'autres problèmes logistiques parce que l'éducation nationale est aussi un service public qui est en souffrance. Et donc, il y a des moyens de gérer ça pour que ça ne prenne pas une ampleur terrible, pour ne pas mettre de côté et jeter des gamins qui restent des enfants, harceleurs, harcelés.
Le face-à-face ce matin, est-ce à l'État de compenser le déficit de la mairie de Paris pour éviter l'augmentation des taxes pour Gabriel Attal? L'invité de ce face-à-face, Anne Hidalgo, devrait apprendre à gérer ses comptes au lieu d'augmenter les taxes. Pour le ministre des Comptes publics, ce n'est pas à l'État de compenser financièrement les non-réformes structurelles de la ville de Paris.
Anne Hidalgo, je lui dis que plutôt qu'augmenter les impôts des Parisiens, qu'elle fasse des réformes de structure à la ville de Paris. Il y a plus de fonctionnaires à la ville de Paris qu'à la Commission européenne. Ils sont toujours pas aux 35 heures. Elle a été condamnée par le tribunal parce qu'il fallait les mettre aux 35 heures. Elle dit qu'elle les a mis aux 35 heures, mais en réalité, elle joue sur l'heure de départ. C'est-à-dire, au lieu de dire qu'on finit à 17 heures, c'est 17h02. Voilà. Et comme ça, sur l'année, on peut dire qu'on fait les 35 heures. C'est quand même pas sérieux. Il y a des dépenses discrétionnaires de subventions qui ont très fortement augmenté ces dernières années. Donc, il y a encore quelques jours, on a fait un versement exceptionnel de recettes de TVA de 50 millions d'euros. Là, la ville de Paris vient de nous demander un acompte justement sur une aide pour l'énergie. On va leur verser autour de 15 millions d'euros. Mais moi, je le dis, à un moment, c'est pas l'État qui peut, en toutes circonstances, compenser l'absence de réforme de structure à la ville de Paris. On va quand même pas augmenter les impôts de tous les Français pour financer l'absence de réforme à la ville de Paris.
Anne-Sophie Saint-Père, il a raison de taper du poing sur la table, Gabriel Attal, sur Anne Hidalgo qui, je le rappelle, va augmenter les taxes foncières de plus de 50% dans la ville de Paris.
Alors moi, je vais être directement touchée. Ceci dit, je me prononcerai pas sans savoir exactement pourquoi on en arrive là. Je sais aussi qu'il y a, enfin voilà, plein de municipalités se plaignent de la réduction des dotations aux collectivités territoriales, que forcément, elles vivent aussi de plein fouet les questions d'inflation, d'augmentation du prix de l'énergie. Donc, je me garderai bien de me prononcer sans savoir exactement ce qu'il y a derrière.
Il y a quand même des trucs étonnants. Il y a plein de chantiers à la ville de Paris. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une personne travaillant sur un chantier. C'est quand même incroyable. Non mais c'est hallucinant.
Quelle heure ils bossent, effectivement.
C'est curieux, ta question.
Vous allez sur la route.
Je demande pourquoi on en est arrivé là. La réponse, elle est simple, c'est gestion catastrophique, calamiteuse, scandaleuse, en fait, de la mairie de Paris. Tout le monde le sait, les audits indépendants le disent. Il y a plus de majorité parce qu'en fait, elle est soutenue par personne. C'est chacun tire. Enfin, les gens grâce à qui elle a été réélue se tirent tous dans les pattes et il y a plus d'unité dans la gestion et dans la conduite des affaires de cette municipalité. Paris est une catastrophe, donc ne cherche pas véritablement d'explication plus loin, paye ta taxe foncière et c'est tout.
Enfin, c'est tout. Non, tu peux aussi te rebeller. C'est vrai que quand on te dit...
Bah, va se rebeller comment ?
Mais quand tu votes pour
quelqu'un qui te la mairie avec une pancarte.
Je n'augmenterai pas les taxes et que ta première augmentation, c'est plus 50, enfin, tu peux avoir les boules quand même.
Bah, parce qu'elle se dit, on va faire payer les propriétaires parce qu'ils vont fermer leur gueule. C'est un coup classique du gauchisme ordinaire.
Mais elle ne savait pas que vous habitiez Paris, Daniel.
Mais moi, je ne suis pas propriétaire. Donc...
Ah oui, d'accord. Bon, bah, y a
mais visiblement, tu l'es. Non
ma banque est propriétaire de mon appartement, oui, mais dans 23 ans, je serai propriétaire. Oui.
Bah toi, ça te gêne pas, en fait.
Donc tu vas payer ta taxe foncière.
Tu payes 50% de plus, ça te gêne pas.
Non, mais évidemment que ça gêne. Ça me gêne, évidemment. Mais après, moi, je me pose la question de pourquoi. Ensuite, moi, j'ai pas
le pourquoi, je te l'ai dit, gestion calamiteuse.
C'est-à-dire que si on dit que l'argent public, il est utilisé pour des choses qui me paraissent importantes, par exemple,
des pistes de vélo.
Oui, tout à fait. Alors, mais vraiment.
Tu vis bien à Paris. C'est la seule personne à vivre bien à Paris.
Alors, non, je ne vis pas bien parce qu'effectivement, il y a une question de moyens.
Les travaux ne te gênent pas, la saleté ne te gêne pas, le bruit ne te gêne pas.
Après, moi, j'ai vécu.
L'insécurité n'est pas gênante.
La situation était bien différente, je peux vous assurer.
Où
que
vous
n'avez pas. J'ai vécu en Inde, j'ai vécu en Palestine. Donc
ah oui, dans ce cas-là, je vais me prendre une tente quechua, je vais me foutre au troca, pas de problème, ce sera mieux.